Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour chers auditeurs, auditrices de RDOA sur le 107.5 ou 101.7. Aujourd'hui pour l'interview du jour, on est au studio de Luc Andiwa et c'est un voyage artistique à travers les époques qu'on va vous proposer aujourd'hui avec Rosa qui organise avec sa sœur une expo rétrospective sur leur papa Vasco Gasquet. Bonjour Rosa.
Bonjour, ça va?
Très bien, et vous?
Très bien, ça va très bien, il fait très beau. Hein. On est dans le couloir.
Tout va bien. Une exposition du coup qui aura lieu à Châtillon-Andiwa.
C'est ça, tout à fait.
Donc qui a déjà commencé et qu'on peut donc découvrir jusqu'au 31 août.
Oui, c'est ça, parfait.
Alors, parlez-nous de votre papa, de cet artiste et de ce qui vous a donné envie de mettre en valeur, les raisons qui vous ont donné envie.
De mettre en valeur son travail. Donc mon papa, notre papa, puisqu'on est deux à organiser l'expo, ma sœur Hélène et moi, s'appelait Vasco Gasquet. C'était un artiste entre guillemets engagé, c'est-à-dire, c'est quelqu'un déjà engagé dans la peinture, puisqu'il a peint pendant 50 ans. Donc il a aussi été témoin de son époque avec les années 50, les années 60, 70, toutes les effervescences artistiques.
Ouais, c'est vraiment des périodes où il y a une évolution assez incroyable.
Assez incroyable. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a fait partie de tout ce bouillonnement. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans une rétrospective, c'est de se balader dans les époques. Voilà, donc c'était quelqu'un qui était, je pense, qui a commencé à peindre des choses qui ont à voir avec la classe ouvrière, les trains, les ouvriers du rail, les usines, donc voilà, des choses assez engagées, années 50, et puis petit à petit, dans les années 60, des choses plus dédiées sur la vitesse, sur les machines, sur les voitures, les accidents de voitures, puis après l'explosion des années 60, les luttes. C'est quelqu'un qui s'était engagé par rapport à la guerre d'Algérie, donc qui s'était engagé contre les tortures en Algérie, donc il en a fait des tableaux aussi. Et puis l'explosion de mai 68, donc lui il était aussi affichiste, il a fait de la sérigraphie. Enfin voilà, toutes les périodes ont eu leur goût, mais ce qui est chouette c'est qu'il a peint vraiment jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au dernier jour. Et avec des formats différents, parce que quand on a 30 ans, on peut faire des formats de 8 mètres sur 4. Donc voilà. Et puis à la fin de sa vie, c'était des plus petits formats, c'était plus intime, c'était plus des encres, plus des choses plus intimes, mais aussi très, fortes, je trouve, mais pas par leur explosion, mais peut-être par la synthèse qu'il arrivait à faire de tout ce qu'il avait ressenti. Et j'aime bien aussi cette période plus, plus petit format, mais assez forte. Alors pourquoi faire une rétrospective? Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est que avec ma sœur, on a réuni toutes les œuvres dans la Drôme. Donc il avait deux ateliers, donc on a ramené tout dans la Drôme l'année passée. Donc c'était un gros boulot.
J'imagine.
Ouais. Qu'il a fallu tout trier, tout ramener, tout ça. Et puis donc on a tout ramené dans un lieu, puisqu'il avait une maison à Châtillon, Vasco Gasquet.
Vous êtes originaire donc d'ici, avec votre papa, votre sœur, votre famille?
Alors non, en fait c'est mon grand-père maternel qui avait acheté une maison dans les années 50. Et puis mon père se baladait dans la Drôme parce qu'il avait des copains à l'époque, le poète Vercors. Il y avait pas mal de peintres en fait dans la Drôme qui venaient l'été pour la lumière. Donc il y avait pas mal de peintres, il y avait pas mal de poètes. Il était venu, il avait habité à Poët-Laval et à Dieulefi. Et puis il est venu à Châtillon-Andiwa et il a rencontré ma maman. Et plaf, voilà. Donc, quelques années plus tard, ils ont acheté une maison à Châtillon, où ils venaient 4-5 mois par an, en fait. Donc voilà, mais ils se sont mariés à Châtillon. Donc, mais voilà, Châtillon a quand même quelque chose de très sentimental.
Il y avait une source d'inspiration un petit peu aussi, ouais. Qui retrouvait peut-être...
Ouais, il a beaucoup peint sur la Drôme aussi. Il a beaucoup peint les champs, les viols, les rues. Alors d'une manière pas réaliste, je dirais, mais plutôt les grandes lignes de force, les ombres et les lumières. Donc c'est une peinture assez puissante en fait, assez graphique. C'est très graphique, mais c'est aussi des hommages à la Drôme parce que voilà, il était amoureux de ce pays, quoi. Donc, voilà.
Sur un des petits documents que vous nous avez emmenés, justement, il y a le poète Vercors que vous avez mentionné, qui cite « Quand Gasquet m'a montré ses gravures de la Drôme, elles ont agi sur mon esprit de façon singulière. Il m'a semblé que j'étais mis en face de mes propres souvenirs.
Oui. »
Donc c'est vraiment un art du coup qui touche et qui parle.
Oui, il y a une super série qu'il a fait sur Châtillon-en-Dibois où on voit les voûtes, on voit les petits escaliers des maisons des viols anciens. On rentrait tous les jours, vous demandez, tiens, t'as pas 10 francs. et donc on voyait bien que ça a évolué en fait assez vite parce qu'il peignait assez vite. Donc c'était assez fascinant. Moi, je sais que j'étais fascinée en tant qu'enfant de voir qu'il était capable de créer des mondes, en fait. C'est-à-dire, lundi, tu arrives et il y a une toile blanche. Mardi, il y a du bleu. Mercredi, il y a du bleu et du orange. Et surtout au niveau des couleurs, je pense que ça... au niveau chromatique, c'est un travail assez intense. Et ouais, c'était fort. C'était comme... comme voir, je sais pas, il y avait un côté comme un forgeron qui serait en train de forger un truc. Il y avait un côté.
La naissance de quelque chose.
Ouais, un peu démiurge comme ça. Tu dis, ouais, mon père, il arrive à créer des bazars, quoi. Après, c'était quelqu'un qui était très simple dans le sens. C'était un fils d'ouvrier, donc. Même s'il avait fait l'école estienne et tout ça, et puis qu'il a des tableaux dans plusieurs pays. Enfin voilà, il a eu ça, il a une certaine cote, comme on dit, quoi.
On va en parler d'ailleurs, parce qu'il y en a des choses à dire.
Ouais, mais c'était pas un conceptuel. Quand on était là à côté de l'autre, autour d'un de ses tableaux, je regardais, je disais, ah bah dis donc, tu y as été aujourd'hui, hein. Il me dit, ah ouais, ça c'est vrai. C'était des dialogues comme ça. Ouais. Disons, c'est pas mal là. C'est boum, hein. T'as pas hésité. Alors, je dis, ah ça, c'est des dialogues comme ça. Mais c'est vrai que ça marque. Ouais.
Il exposait déjà à l'époque.
Ouais.
Ouais.
Ouais, 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 ouais. Ouais, il a toujours exposé. Ouais. Il y a eu une petite période où il a moins exposé après les années 70. Excusez-moi, j'habite en Belgique. Les années 70. Il y a eu un peu un creux, mais pour beaucoup de gens, en fait, parce qu'il y a eu cette explosion un peu de l'utopie des années 60, 70, 70. Et puis après, il y a eu un peu un reflux. Donc chacun se demandait ce qu'il allait faire. Donc il y a eu peut-être 4-5 ans où il a moins peint. Et puis après, c'est reparti, quoi.
C'est la première fois que vous faites ça, de justement mettre toutes ces œuvres à disposition des nouvelles générations, du coup, parce que comme vous le mentionnez, ça, c'est quand même du coup un travail à travers les époques qui a influencé du coup plusieurs générations, j'imagine.
C'est ça. Oui, c'est la première fois que ma sœur et moi on s'y colle vraiment. D'une part parce que on a réuni ces deux ateliers, d'autre part il y a suffisamment de temps qui est passé aussi, donc c'est pas émotionnel. Voilà, c'est, on arrive à le faire, on le fait bien, on est contente de partager ça, c'est chouette. On a plein de retours, c'est vraiment un partage, quoi. C'est un partage et je pense que c'était mûr pour nous deux. Avant ça aurait été trop tôt, maintenant c'est super. Et ouais, c'est c'est assez incroyable rien que de faire la sélection, donc de se rebalader dans les peintures. Non, moi, ça me nourrit vachement bien. Puis ça me met la pêche. Je me dis, allez, faut y aller. Ils étaient libres. Faut qu'on soit libres aussi, nous, quoi. Il faut qu'on soit aussi libre qu'eux, sinon ça ne va pas.
Et voilà. Pourtant, on pourrait en dire par rapport à ces époques que ce n'était pas forcément des époques où on était libre, mais du coup, peut-être votre papa trouvait cette liberté à travers l'art.
Ouais, ouais, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais, je crois que lui, il avait choisi la liberté, même si ça coûtait cher, en fait. C'est-à-dire. Il ne souhaitait pas plaire à tout le monde, même si c'était. Je pense que ces tableaux étaient assez efficaces pour que, voilà, on ressente quelque chose de fort, quoi. Il y a une construction qui est quand même très, très travaillée. Voilà. Il était affichiste aussi, donc du coup, il avait un sens de la compo qui était fort. Mais c'était quelqu'un d'un peu sans concession, donc ouais, la liberté, je pense qu'il l'avait, et il l'avait pris très jeune, pour vous dire la vérité, en fait, ses parents, enfin en tout cas sa mère voulait pas qu'il peigne, et donc je sais pas pourquoi d'ailleurs, bref.
Ouais, parce qu'à une époque c'était pas très bien vu d'être artiste, voilà. C'était pas le métier, ouais, c'est ça.
Et donc à 17 ans il a pris ses clics et ses claques et il est parti, donc je pense que la liberté il l'avait choisi très tôt. Et il en connaissait le prix, mais donc voilà, c'était fait, quoi. C'était fait.
Et du coup, peinture, mais aussi dessin, vous avez mentionné la sérigraphie, les affiches, ouais. Light show, des films,
ouais.
C'est une grande personnalité. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ses autres talents aussi, ouais. Comme il n'est pas que peintre?
Ouais. Ben, comme je disais, c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la composition. Il s'intéressait beaucoup à la peinture russe. Et les Russes étaient très forts en composition. Donc, du coup, entre la peinture et l'affiche, il y avait un lien assez fort parce que lui travaillait sur des grands aplats de peinture colorés. Donc, passer à l'affiche, c'était quelque chose de tout à fait possible. Et puis, très vite, il a su faire de la sérigraphie. Donc très vite, il s'est intéressé à la sérigraphie. Il l'avait appris d'un copain latino, je crois, parce que là-bas, ça marchait très fort déjà hein, dans les années 60, la sérigraphie. Les artistes latino-américains, je crois que c'était parmi les premiers à travailler sur ce support. Et donc, il avait appris la sérigraphie. En plus, lui, il avait fait l'école Estienne, qui était une école des ouvriers du livre. Donc, il avait appris la litho, il avait appris tous les modes, voilà. Et donc, voilà. Et quand ça a explosé, le mouvement de mai 68, il avait des copains qui étaient aux Beaux-Arts, qui avaient décidé d'occuper les Beaux-Arts, mais pas d'occuper pour rien faire. Ils disaient, qu'est-ce qu'on va faire? On a occupé l'école, c'est bien, mais bon, on fait quoi? On s'est dit, on va faire des affiches qu'on va mettre dans la rue. Et donc, ils ont appelé mon père qui savait sérigraphier, parce qu'aux Beaux-Arts, il ne savait pas sérigraphier. Incroyable. Parce que ce n'était pas un art noble. C'était la litho, c'était noble, mais la sérigraphie, c'était trop, voilà. Et donc, il l'avait invité, et du coup, il a fait partie de la création de ce qu'on appelle les ateliers populaires, hein, autogérés, là-bas, qui... Donc, le matin, les gens faisaient des projets d'affiches. L'après-midi, on votait pour l'affiche du jour, donc c'était les comités. Et la nuit, le soir, on les imprimait, enfin en sérigraphie, et la nuit, on allait les coller. Donc, du coup, le lendemain matin, il y avait des affiches partout dans la ville. Donc, c'était toute cette période-là d'affiches. Lui, il a sorti un bouquin qui s'appelle Les 500 affiches de mai 68.
Auteur en plus, mais quel personnage inspirant et impressionnant.
Ouais, enfin, c'est surtout une collection des affiches, puis avec une petite mise en contexte sur le mouvement, tout ce mouvement d'affiches. Et alors, quand on revoit ces affiches, il y en a quelques-unes dans l'expo. Hein,
qu'est-ce que j'allais dire, ouais. On peut les retrouver un petit peu aussi, ouais. Les affiches.
Ouais, ouais, on peut les retrouver. Du coup, on voit qu'il y a des sujets qui n'ont pas changé. Sur l'accueil des étrangers, sur les cadences infernales, voilà, il y a des sujets qui sont là, mais ils avaient vachement d'humour aussi, et ils étaient très rentres dedans, mais ils avaient vachement d'humour, ils étaient facétieux quand même hein, à cette époque. Et puis après, il a Il avait des copains qui faisaient de la musique et tout ça. Donc, il s'est intéressé à ce qu'on appelait à l'époque le light show. Donc, ça pourrait être le début du VJing. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de logiciel. Donc, ils envoyaient des diapositives, en fait, sur les concerts pour créer des espèces d'appenings.
Petites ambiances.
Des ambiances. Donc, c'était des diapos. Donc, c'était une par une. Donc, il avait des racks de diapos. Donc, il avait des immenses racks de diapos. Les diapos, donc, il les faisait lui-même. Et il envoyait. Voilà. Et donc, il avait fait ça pour les Pink Floyd, pour d'autres groupes. Enfin, voilà.
Waouh!
Donc, voilà. C'était de moins en moins une image. C'était plus une image en mouvement avec la musique et tout ça. Mais ces expérimentations des années 60, 70, ils se sont bien marrés, je pense. Ouais,
vraiment, ça avait l'air d'être riche.
Oui, ils se sont vraiment bien marrés.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de lui demander en quoi pour lui c'était important de faire de l'art engagé ? Mm-hmm. Vous en avez parlé un petit peu au début de l'interview en disant que c'était un artiste quand même assez engagé, et puis avec tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant.
Ouais. Alors après, il a aussi fait des choses pas engagées. Hein. Je veux dire, il a aussi fait toute une série sur le corps des femmes libres. Et toute une série
ça
sur les Vénus.
Ça reste engagé quand même. Voilà. Les femmes à une époque, on n'en parlait pas aussi librement qu'aujourd'hui. En tout
cas. Donc il y a des choses sur l'amour. Il y a des choses sur les paysages. Voilà, donc il n'y a pas que l'engagement. Hein. Mais en quoi c'était important l'engagement ? Je pense que lui, il y bouillonnait, en fait. Hein. Il avait été quand même percuté par un certain nombre de choses. Son père était émigré espagnol, franco, tout ça. Il est né en 41, donc il a vécu l'occupation à Paris quand il était petit. Donc, ces souvenirs-là. Donc, tout de suite, il a été internationaliste, en fait, très, très rapidement. Je pense que ça l'a marqué quand même. Il a vu les fascismes en action, quoi. Donc, alors même s'il était petit, donc je pense que quand on a eu cette conscience-là en acte, enfin, du coup,
La vision du monde.
Ouais, je pense qu'on est. Mais après, c'était quelqu'un de marrant, très drôle, beaucoup d'humour.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7 FM.
Donc amoureux de la Drôme, il s'inspirait de la Drôme, mais du coup vous disiez donc que vous n'étiez pas d'ici, qu'il est né à Paris et qu'il a été exposé sur plusieurs continents.
Oui.
Parlons-en.
Il a eu la chance, donc il a commencé très jeune, hein, à 17 ans, à peindre. Et il a eu la chance assez vite de s'associer à un mouvement qui s'appelait le mouvement de la jeune peinture. Donc c'était un petit peu les outsiders, un peu les rebelles de la peinture, qui voulaient un peu ouvrir les formes, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait que le réalisme ou alors des choses plus... des impressionnismes, des choses comme ça. Donc eux, ils voulaient un peu renouveler les formes, un peu arriver avec d'autres choses. Et ce mouvement-là a assez vite intéressé les collectionneurs, la presse. Et donc, il a été assez vite, entre guillemets, il est assez vite passé au-dessus des radars, en fait. Donc, il était assez vite vu. Et du coup, il y a des musées qui ont acheté ses œuvres assez rapidement. Donc, il y a des choses au musée d'art moderne de Paris. Et puis ensuite, il a toujours continué à exposer en Allemagne, en Belgique, et puis aux États-Unis, à New York, il y a des tableaux à lui là-bas. Et puis, ce qui est chouette aussi, c'est en Afrique. C'est-à-dire, d'une part, comme il avait fait des œuvres un petit peu contre la torture en Algérie, il a été contacté par le musée d'Alger après l'indépendance. Et donc, c'était vraiment un copain du musée d'Alger, quoi. Et donc, il a des œuvres là-bas. Et il y a une femme qui était conservatrice du musée d'Alger, qui a écrit un super beau texte quand il est décédé. Voilà, il avait une vraie amitié à Alger. Nous, on a habité aussi un ou deux ans à Alger avec la famille, donc voilà. Et puis, l'un des derniers trucs, c'est incroyable, c'est... que un jour il est contacté par le musée au Mali de Bamako. Alors, il était déjà âgé, hein, mon père. Et il dit, écoutez, monsieur, on trouve que vos tableaux ressemblent à l'art dogon. Alors, il dit, l'art dogon, donc l'art traditionnel du Mali. Il dit, ah bon? Et c'est vrai que, quelque part, les masques africains, il y a un lien avec l'art moderne. Enfin, il y a quelque chose, il y a une inspiration même dans Picasso. Enfin, voilà. Donc, ça peut être logique. Et il a dit, vous ne voulez pas exposer au Mali. Donc, mon père était âgé. Hein. Alors, il a hésité et tout. Et puis, il a dit, bon, d'accord. Donc, le voilà au Mali.
Incroyable.
Le voilà au Mali. Donc, a rencontré là-bas le musée d'art moderne et tout ça. Et puis, les gens. Hein. Et puis, donc, ils ont fait une rétrospective là-bas. Et lui, il avait invité les musiciens de rue de Bamako à venir faire le vernissage dans le centre culturel. Donc voilà, c'était un des derniers grands voyages un peu loin. Et puis après, il a fait des tableaux aussi inspirés des couleurs du Mali. Donc ouais, voilà.
C'est une influence du coup qui a été distribuée un petit peu de partout.
Ouais,
c'est
ouais.
Très chouette. Ça vous a amené à beaucoup voyager en famille du coup?
Bah, quand on était petite, moi, j'ai pas été à l'école tout de suite parce que on était en Algérie, on était en Tunisie, on a vécu un an à Anvers, en Belgique. Donc, on s'est stabilisé, je dirais, pour quelque part nous scolariser, ma sœur et moi. Et qui était peut-être pas la meilleure chose. C'est vrai que nous, on était un peu, voilà, on avait vécu un peu partout. Donc, le retour à l'école a été un peu complexe. Mais,
ouais, passer nomade à sédentaire, pas
ouais,
facile.
Pas facile. Pour moi, ça a été. La première année était quand même une grosse adaptation. Parce que moi, avant, j'allais à l'école arabe à Alger. Enfin, et puis l'après-midi à la mer, quoi. Il y avait. Donc, j'arrive en banlieue française, il fait froid, tout ça, bref. Voilà, l'adaptation s'est faite. Et voilà, mais donc après, ils ont moins voyagé pour nous scolariser, en fait. Donc voilà, c'est ça un peu qui s'est passé. Mais après, oui, après, on garde des traces de ces voyages, des festivals. Ma sœur garde beaucoup un imaginaire des festivals où on allait, enfants, on traînait là. Et du coup, je sais que ma sœur et moi, enfin en tout cas moi, quand j'étais scolarisée, des années, j'attendais juste que la vie reprenne en fait. Je me disais, bon, c'est quand que la vie va reprendre? Et heureusement, je me suis intéressée au théâtre et c'est là où la vie a repris en fait. Mais...
J'allais vous demander si justement le fait d'avoir un papa artiste engagé et puis du coup sur plein de formes artistiques, est-ce que vous, comme votre sœur, ça a influencé aussi votre vie d'aujourd'hui?
Ouais, je pense, à différents niveaux. Il y a ma mère aussi hein, qui était monteuse de cinéma. Donc, pas créatrice, mais en tout cas, elle s'intéressait au processus, quoi. Je pense que il y a un goût de l'action, il y a un goût des choses en mouvement, des choses qui se créent, de la créativité, en fait. Donc, moi, ça a été le théâtre qui m'a percuté. Voilà. J'ai vu des gens qui créent ensemble. Je me suis dit, oh là, voilà, c'est ça, c'est cet endroit-là qui vit pour moi. Donc voilà, je me suis inscrite là-dedans. Ma sœur, ça a été plus il y a le costume. Ma sœur a été costumière. Elle a été actrice aussi, hein, mais elle a été costumière beaucoup. Donc oui, beaucoup par tout ce qui était lié oui, au costume, tout ça. Et puis elle dessine aussi, ma sœur. Donc elle a sa production propre. Voilà, moi j'ai pas osé, moi j'ai fait de la photo, théâtre, voilà. J'ai pas osé mettre le pied là, mais j'ai pas dit mon dernier mot.
Mais oui, il n'est jamais trop tard pour commencer.
Oui, oui, j'ai toujours imaginé que quand je serais vieille, je peindrais.
Donc quand même une famille d'artistes, vous êtes vraiment dans le milieu artistique tous, quoi.
Ouais, mais en même temps très ancrée dans le réel. C'est-à-dire, ouais. Comme je disais, comme mon père venait d'un milieu prolétaire, donc la création, oui, l'acte artistique, oui, mais pas comme quelque chose détaché des autres. pas détaché des gens. Au contraire, je dirais même...
C'est bien voilà. De garder ça. À la base, l'art, c'est quand même fait pour échanger, partager.
Clairement.
C'est important de garder ces valeurs-là. Et combien d'œuvres vous nous partagez sur cette exposition rétrospective ?
Il va y avoir une trentaine d'œuvres dans la grande expo, parce qu'il y a deux lieux. Donc il y a la mairie de Châtillon-Andiwa, où on expose les tableaux. Et puis il y a la petite galerie qui est dans la maison de Vasco, qu'on ouvre aussi, là on expose les dessins. Donc si on prend tout, il va y avoir une cinquantaine d'œuvres. Avec des tout petits formats, comme des immenses, il y a des choses de 2 mètres sur 2, des grosses pièces, et puis des petites choses de quelques centimètres. Donc on espère que ça va être en tout cas intéressant. En tout cas, nous, ça nous a intéressé de le monter. De traverser toutes ces époques, toutes ces formes, tous ces thèmes. On s'est pas ennuyé, nous. Donc, ouais. Je pense qu'on va. Voilà.
J'imagine.
C'est intéressant. C'est une plongée. Puis je pense que c'est quelque chose d'assez généreux aussi. Je pense que c'est un travail qui est assez généreux. Et voilà, quoi. Bienvenue. Hein.
Est-ce que, du coup, on peut visiter n'importe quand ? Enfin,
n'importe quand.
N'importe quand.
Ouais. Donc, non. En fait, nous, on va ouvrir de 16 à 19 heures.
Donc, tous les jours ?
Tous les jours, de 16 à 19 heures.
Jusqu'au 31.
Jusqu'au 31. Et l'expo de peinture, on l'ouvre aussi le matin. De dessin, on l'ouvre aussi le matin à partir de 11h, midi et demi. Quoi. Voilà, voilà. Moi, je suis quand même en vacances. donc voilà.
Et quel retour, tout à l'heure, tu mentionnais le fait qu'il y avait des retours un peu sur toutes ces œuvres. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ?
Ouais. Ce qui est chouette, c'est que vraiment, ça passe par le filtre de chaque personne. Donc, chaque personne va aimer un moment, en fait, je pense. Enfin, on va être intéressé par l'ensemble, mais il y a un coup de cœur sur un... Il y a quelque chose qui te parle à un moment donné, qui te dit, ouais, là, ça me parle. Quoi. Comme il y a plusieurs périodes, je pense que chacun est... particulièrement touché par une période, même si on aime bien tout. Il y a des gens qui sont touchés par les tableaux sur Châtillon, parce que voilà, ça leur rappelle plein de choses, ou ils revivent des sensations, des soirées, des nuits, de la vie du village. Donc je pense que il y a une entropie, c'est très poétique, les tableaux sur Châtillon, c'est assez mystérieux, c'est beau. Donc je pense qu'il y a des gens qui, c'est cette rentrée là il y a des gens qui sont plus touchés par les femmes, parce que toute une plastique autour de la femme ronde, la femme joyeuse. Donc c'est assez fort, c'est assez coloré, du orange,
vivant.
Du jaune,
oui.
Vivant, des femmes qui vont à la piscine, qui vont dans l'eau. Donc ça pète bien, c'est assez puissant. Donc ça touche aussi les gens qui ont besoin de couleurs, de vitalité. Voilà, il y a des gens qui sont plus touchés par les choses plus abstraites. Voilà, donc je pense que chacun a sa propre vibration par rapport à tout ça. Ah oui, il y a des petites sculptures aussi. Il y a des petites sculptures de femmes très colorées. Il y a un monsieur qui en a acheté une, ça lui rappelait quelque chose. Je pense que chacun fait son chemin, c'est chouette. C'est chouette ça.
Et 50, on n'en a pas vraiment parlé, mais 50 années de création, il y a aussi toute l'évolution des techniques de création.
Oui.
Et des mouvements. Donc, je crois que vous aviez dit qu'il n'était pas vraiment cantonné au réalisme ou à un mouvement précis. Mais du coup, quelles étaient ces techniques un petit peu ? Est-ce qu'elles étaient variées, diverses ou...
Ouais, je dirais qu'il. Alors, au point de vue des formes, au niveau technique, je dirais que c'est surtout sa puissance géométrique, quoi. Il avait un grand sens de la composition. Donc il y a une puissance qui se dégage des œuvres, peu importe le support d'ailleurs, une force de la composition. On entre dans la pièce, on voit, boum, ça, avant de rentrer dans les détails, on a, boum, quelque chose de puissant, des lignes de force très, très puissantes. Donc ça recouvre toutes les époques. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé à la gouache. des grands aplats, pour faire des grands aplats colorés. Il aimait beaucoup la gouache. C'était pas un peintre à l'huile, ça prenait trop de temps. Lui, il fallait qu'il s'assoie plus musclé, j'ai envie de dire. Il travaillait beaucoup à l'encre aussi, toutes sortes de manières de travailler l'encre, avec de l'eau, avec du dropping, c'est-à-dire faire couler l'encre. On met l'œuvre à plat et puis on fait couler les coulures. Donc l'encre aussi, il a beaucoup aimé. Après, il y a eu du collage, il y a eu du spray aussi dans les années plus 80.
Ouais, 80, 90, 2000.
Ouais, ouais. T'es intéressé par le graffiti. Donc il a travaillé à la bombe aussi un peu. Il a essayé un peu à travailler
avec ça. Ça avait l'air d'être un artiste qui se renouvelait en fait, qui vivait avec son temps. Ouais. Qui du coup a influencé, marqué l'époque avec ses œuvres, mais qui en plus s'adaptait aussi et ne restait pas que sur ses acquis.
Ouais, c'est ça. Voilà. Mais en même temps, on reconnaît son œuvre tout du long parce que il y a, je crois, cette force de composition. Donc le spray, il a travaillé aussi du graffiti, mais gravé dans du plâtre. Donc il faisait des plâtres et il mettait une texture dessus, et il gravait. À l'intérieur, donc oui, il a travaillé plusieurs. Et puis sur la fin, plutôt l'encre, même le feutre, et avec des formats plus intimes, je dirais. Donc il a fait des sculptures aussi, là on en a peu, parce que c'était pas mal des sculptures in situ. Mais voilà, oui, il était curieux en fait. Ouais, il était vachement curieux de ce qui se passait, voilà. Et j'ai retrouvé hier un très grand dessin que je connaissais pas. Donc ça, c'est assez incroyable. Il y a encore des choses que je connais pas.
La magie d'avoir un papa artiste, on en découvre
un
peu presque tout le temps sur.
Ouais. Et alors ça, c'était assez impressionnant parce que c'est un grand dessin, bon, vraiment grand. C'est un jeune homme avec une casquette, donc stylisée, casquette à l'envers, qui se fait courir après par un policier, un CRS, je ne sais pas. Et alors, c'était tellement actuel. J'étais là, je me disais, mais c'est dingue en fait. On ne fait que revivre les mêmes choses. Mais du coup, grâce à l'art, on arrive à le fixer.
Et puis du coup à se rendre compte de cette réalité-là que l'humain en fait revit constamment les mêmes cycles, si on peut dire ça.
Ouais, je me disais quand même c'est fort.
C'est ça aussi la transmission en fait.
Ouais. Et je pense que oui, il y a même dans le mouvement entre guillemets de retour à la terre, parce qu'il y a pas mal de gens qui s'installent et tout ça. Dans les fins des années 60, il y a eu un premier mouvement comme ça de retour, et donc les choses se réinventent, mais quelque part, il y a déjà eu des cycles. C'est pas inintéressant d'aller voir comment les plus vieux avaient géré ça.
Est-ce que dans l'esprit des certains habitants, habitantes de Châtillon-Diwa, son nom est encore ancré et présent à se dire oui, bah, je connais,
ouais,
évidemment. Ouais.
Ouais, ouais. Elle m'a dit aussi, même plus loin. Bah, ouais, si. C'était un personnage. Hein. C'était quelqu'un qui aimait bien prendre son petit café au bistrot le matin, qui aimait bien discutailler le coup. Donc, non, les gens le connaissaient très bien. C'était une grande gueule un peu dans le genre il avait ses avis quoi, donc non les gens le connaissent, les gens savent qui il est, y a d'ailleurs des collectionneurs dans la région qui ont acheté à chaque époque, donc je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être plus de tableaux que nous finalement, parce que, peut-être pas, mais je veux dire qui ont à chaque époque acheté des tableaux. Donc il y a des collectionneurs sur plusieurs années, il y a des fidèles, c'est chouette. Non, il était connu comme... C'était un gars qui allait au café. Les gens le connaissaient dans la région, c'est sûr.
Donc son souvenir est encore présent aujourd'hui.
Ouais, donc ils sont contents, ils ont hâte de voir... De voir, mais je pense même pour les jeunes, c'est chouette.
Ouais.
Parce que c'est Bah, je te dis, moi, j'aimerais qu'on puisse avoir cette liberté-là. Je me dis, si eux l'ont eue, il faut qu'on la conserve, quoi. Donc, voilà, je pense que c'est plutôt... Il faut que ça nous donne de la force et de l'énergie et de l'envie.
Et est-ce que sur les œuvres que vous proposez, il y en a certaines que vous vendez?
Ah
enfin,
oui.
S'il y a des gens voilà, là, qui ont un coup de cœur pour une des œuvres de votre papa, ils peuvent repartir avec.
Oui, oui, tout à fait, oui, bien sûr. Oui, parce que lui, il aimait partager, il aimait que ça se diffuse. Ce n'était pas du tout quelqu'un qui était dans la...
Tout conservé.
Non, c'était pas un conservateur. Donc, du coup, non. Lui, il aimait que ça aille chez les gens, que ça prenne sa place dans des intérieurs, dans des maisons, que ça vive avec les gens. Donc, non, nous, on est dans le même état d'esprit. On a gardé des œuvres à nous, qui sont à la famille, qui ont une intimité avec nous, des portraits de ma mère, des choses.
Ouais.
Voilà, on a chacune, ma sœur et moi, plusieurs tableaux qui sont à nous, qui nous a même donné de son vivant. Hein, donc,
ouais.
Donc voilà, on a notre collection à nous et maintenant on partage. Non, le but, c'est vraiment de partager. Puis il y a une petite anecdote, c'est qu'en plus, avec les gains de l'expo, nous, notre projet avec ma sœur, c'est d'entretenir sa maison, en fait. Donc voilà, donc ça a du sens, on trouve ça chouette. Non, il n'y a pas de souci au partage.
Est-ce que pour finir cette interview, il y a une chanson que vous voudriez proposer aux auditeurs, auditrices pour rendre hommage à votre papa ou pour coller un petit peu avec tout ça ou pas du tout, peut-être la chanson que vous aimez en ce moment?
Peut-être un truc de Jacques Higelin. Il aimait bien, c'était un copain en fait.
Et sur RDIWA, on aime bien laisser une parole libre à la fin des interviews.
D'accord.
Donc s'il y a un message ou quelque chose que vous avez envie de parler en lien avec l'exposition ou pas du tout, le micro est à vous.
D'accord. Moi, ce que je dirais, enfin en tout cas, moi, le fait d'avoir préparé l'expo avec ma sœur, il y a une chose que, c'est ce que je dis depuis le début, je pense que c'est chouette que la jeunesse s'organise, qu'on fasse nous-mêmes, enfin voilà, je pense que les années 60, ça a été une période où les gens n'ont pas attendu que ça vienne de l'extérieur, les choses se sont auto-organisées et pour créer, pour vivre, voilà, et je pense que c'est ça qui les a rendus libres aussi. Et donc, si on peut continuer à être libre, quoi. C'est tout.
Merci beaucoup, Rosa, d'être venue
nous
parler de ton papa.
Ouais.
Du coup, Vasco Gasquet, une exposition à retrouver à Châtillon-en-Diois jusqu'au 31 août et du coup de 16h à 19h.
Oui, et puis je fais un petit salut à ma sœur Hélène qui a beaucoup bossé sur ce projet. Donc voilà, on est ensemble, quoi.
Bah, félicitations à vous deux, en tout cas, et merci d'offrir ça aux habitants, habitantes du territoire de la Drôme. Vous pourrez retrouver cette interview sur www.rdiwa.fr. À bientôt.
À bientôt.
Est dit, la tête fait, ce qui est fait est écrit, c'est comme ça, c'est la vie. 24, 9, 90, ma petite gonzesse a vu le jour dans la nuit, c'est comme si un tremblement de terre, un volcan, un raz-de-marée me secouait de la tête aux pieds. Le long de la voie lactée, le long de la voie lactée. Soleil de plomb dans la nuit noire, je me sens comme
comme un lion dans un square. C'est la vie, c'est le traquenard. De l'aube jusqu'au lendemain matin, j'ai alerté tous les pingouins de ma galaxie. J'suis papa. Si on savait tout de ce qui nous reste à prouver, est-ce qu'on se mouillerait jusqu'au cou pour le genre de petite beauté qui vous ligote au pied de son berceau? Va, ma reine, va là où tu veux. Mon amour jamais ne te quittera des yeux. Va, mon ange, ouvre le chemin à l'étrange aventurière du destin. Y'a tant de folie et trop de misère. Ce qui a été dit reste à faire, c'est comme ça. Mais pourquoi on laisse tourner le monde à l'envers, sans prendre l'air, sans se donner le temps de le retourner à l'endroit où il fait bon vivre pour la fleur du genre humain, celle qui a besoin d'être arrosée. Amour de ma vie.